Bien, bonjour à tous, et puis aussi bonne année. Je n'ai pas vu les chrétiens depuis l'année dernière, je crois, enfin la grande majorité des chrétiens, vu que j'étais un peu malade, mais le Seigneur m'a guéri. Et là, certains peut-être ont la grippe, et... donc je pense à Henri qui a la grippe, voilà. C'est pas moi qui l'ai donné, hein. Parce que moi je ne l'ai pas dit. Ben, il faut prier pour lui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons prendre un passage qui se trouve dans Éphésiens. Ah, je suis heureux de voir des frères que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ça me fait plaisir. Je reconnais. Alors, on va prendre Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 21. Éphésiens 5, 8 à 21. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, en ce début d'année, certains, sans doute, ont reçu un calendrier, ou peut-être acheté, hein, ou peut-être plusieurs même. Alors, des fois, on en reçoit de partout, hein. Même quand on veut proposer un calendrier biblique, on nous dit « j'en ai déjà ». Donc, c'est pas quelque chose de rare. Et en fait, c'est bon, en général, c'est pour savoir quel jour on est. C'est pour savoir aussi à quoi correspondent les jours. Alors, tel jour, c'est un dimanche. L'autre jour, ça sera peut-être un jour spécial. Quels événements ou fêtes sont prévus? Alors, pour certains, c'est important d'avoir en vue les jours fériés, les jours de repos, les jours où ils peuvent envisager les choses différemment. Donc voilà, ça c'est le calendrier. Alors nous, souvent, on a un calendrier pour lire des versets bibliques et nous encourager chaque jour. Et je crois que c'est une bonne chose. Alors d'autres ont reçu ou acheté un agenda pour organiser leur emploi du temps. Alors souvent on m'avait offert des agendas et ils sont toujours neufs. Alors jamais j'arrive pas à écrire quelque chose, à prévoir peut-être. En fait, il y en a qui ont vraiment besoin d'un agenda. Alors pour leur emploi du temps, des petits, des grands, hein. Il y en a de toutes sortes, hein, pour remplir bien les journées, ou alors vite fait ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'on a un agenda qu'on va le suivre aussi. Hein. Très vite, on le laisse de côté, pour certains. Hein. Ou alors, peut-être juste pour prévoir les vacances. Alors ça, c'est assez commun. Hein. Alors, ma femme, elle travaille à la maison de retraite, hein, vous le savez, la plupart. Et donc, avant la fin de l'année, donc l'année qui est passée, on lui dit, il faut que tu poses tes congés. Alors, ce qui est étonnant, enfin, étonnant peut-être, mais c'est normal, hein, c'est que elle doit poser les congés de toute l'année. C'est comme si elle savait exactement ce qu'elle allait faire en septembre. Et donc, elle pose le congé, elle dit, eh bien, on en parle, elle dit, qu'est-ce que tu penses une semaine par-ci, là, avant l'été, puis bon, deux semaines en été, et puis peut-être deux semaines en septembre. Je dis, ben, ouais, ça a l'air pas mal, ouais, ouais. Pourquoi pas? En fait, finalement, c'est quelque chose qui est prévu pour tous afin que tout le monde s'accorde. Et c'est assez normal. Donc, il faut établir les vacances de toute l'année pour que chacun puisse prévoir où c'est qu'il doit aller. Hein. Et donc, il y a une consultation avec la direction. Et il y a quelqu'un qui est préposé à organiser tous les emplois du temps. Alors, pendant l'année, chacun aura ce qu'il aura demandé parce que quelqu'un a veillé à ce que ça ne se chevauche pas, qu'il n'y ait pas d'imprévus, que personne ne manque pour le travail. Et ce qui est étonnant, c'est que, en général, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui manque, soit pour une raison ou une autre, une maladie, on tombe malade, en cette période, on voit les microbes, les virus qui touchent et on est obligé d'avoir des remplacements. Donc, finalement, c'est une question de sagesse, mais est-ce la vraie sagesse? Est-ce que on peut s'appuyer fermement sur ce qu'on a prévu sans penser que ça peut changer? Est-ce que on prévoit l'avenir à tel point que, eh bien, on est sûr de ce qu'on va faire et que ça se passera exactement comme l'on veut? Alors, on veut bien harmoniser les désirs de chacun, mais est-ce que ça finit toujours comme ça? Il y a quelqu'un qui nous a dit, avant qu'on pose les congés, qui a dit, venez me voir. Donc, c'est un pays ailleurs, il faut prendre l'avion. J'ai dit, d'accord, on va essayer, si c'est la volonté de Dieu. On va essayer, si c'est la volonté de Dieu, on va venir. Et puis, tout de suite après, ne venez pas parce que j'ai prévu quelque chose. Il dit, ne t'inquiète pas, je t'ai dit si c'est la volonté de Dieu. Alors bon, après, elle me dit, j'espère que vous n'avez pas pris le billet d'avion. Et c'est vrai que de nos jours, on prend des billets d'avion un an à l'avance, soit pour avoir un prix meilleur, soit pour avoir une place et pouvoir partir. Ou d'autres raisons, hein. Et donc, là, cette personne après nous a prévenu, vous pouvez venir, pas de problème. Ben, j'ai dit, ben, on va voir, ben, on verra. Alors, finalement, on ne sait pas. Peut-être que c'est dans les congés qu'on a posés. Et ça nous fait plaisir. Et peut-être que ça se fera. Mais c'est pas sûr. Si Dieu le veut, si c'est la volonté du Seigneur. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses dans notre vie. Hein. Il y avait un pasteur que je connais, j'avais entendu dire, eh bien, voilà mon agenda, je ne pourrai pas venir avant longtemps. Un an ou plus. c'était pour qu'on l'invite à venir, quoi. Puis là, je ne sais pas si. Voilà, là, c'est pris pendant un an. Voilà. Ah bon? Voilà. Alors, Il est évident de toute façon qu'en tant que chrétien, nous devons avoir nécessairement un emploi du temps un peu différent de celui de l'inconverti. Il n'est pas possible que nous ayons prévu ou nous allons faire des choses exactement comme les inconvertis. Regardez ici ce qui nous est dit au verset 8 à 11 du chapitre 5. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc voilà un grand changement. Et il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors là, c'est déjà une exhortation à rejeter certaines choses que font les inconvertis et à faire d'autres choses qui caractérisent le chrétien. Au verset 15, il est dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des sensés, mais comme des sages. » Et nous savons que par la parole de Dieu, que le Seigneur, lui qui a commencé à nous transformer quand nous avons cru en lui, eh bien, il veut nous façonner à sa ressemblance. Et il veut nous utiliser, chacun de nous, selon nos capacités, selon nos dons. Et en cela, eh bien, justement, le chrétien est différent. Et nous sommes tous différents. Mais nous nous complétons. C'est ça qui est merveilleux. On peut vivre ensemble alors que si nous n'étions pas chrétiens, peut-être que on passerait à côté les uns des autres sans essayer de passer un peu de temps, faire connaissance, sans essayer de avoir une relation amicale. Mais nous qui sommes différents, le Seigneur nous a aimés, nous a choisis pour que dans le corps de Christ, nous puissions nous compléter et chacun apporter ce qu'il peut à l'autre, s'édifier l'un l'autre pour la gloire de Dieu. Alors, on peut lire les versets 18 à 20 où Paul donne quelques conseils pour que nous soyons en bonne forme spirituelle. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, c'est tout un programme que le Seigneur nous donne. Alors, c'est un peu l'emploi du temps du Seigneur que Dieu donne aux chrétiens. Hein. Alors, il nous dit d'abord qu'il nous faut être remplis de l'Esprit. Alors, quelquefois, on peut penser que c'est une option, c'est facultatif. Je peux être rempli du Saint-Esprit, mais si je ne le suis pas, c'est pas important. Mais quand on lit la parole de Dieu, eh bien c'est l'impératif que le Seigneur ordonne à ses enfants. Soyez remplis du Saint-Esprit. Être en communion avec le Seigneur au point de déborder, que des fleuves de vie coulent de notre sein. Et cela, eh bien, je sais que le Seigneur veut le faire pour chacun et à chaque instant. Et pour cela, eh bien, il suffit de confesser nos péchés et de demander pardon au Seigneur et de lui demander « Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et il le fait. Autant nous croyons qu'il faut venir à lui par la foi, autant par la foi nous demandons, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Alors, c'est sûr que on a tendance à se fier à nos sentiments en pensant, je ne me sens pas rempli du Saint-Esprit, mais si on l'a demandé au Seigneur, bien, nous le sommes. Et puis, finalement, le fruit de l'Esprit se manifeste. Ou alors, s'il ne se manifeste pas, c'est qu'il y a un problème à régler et qu'il faut s'approcher du Seigneur pour lui demander, pour se mettre en règle, pour qu'il puisse être en nous quelqu'un qui a la possibilité de nous dire tout ce qu'il veut et de faire tout ce qu'il veut avec nous. Alors, soyons remplis du Saint-Esprit. Après, nous avons lu qu'il nous faut chanter et célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Alors, autant on n'est pas rempli du Saint-Esprit pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Autant, nous chantons et nous célébrons le Seigneur de tout notre cœur ensemble. Et c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. La louange plaît à Dieu. Il apprécie qu'on s'approche de lui avec reconnaissance. Et il nous est dit qu'il nous faut rendre grâce toujours pour toute chose à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce programme qui est donné là en quelques versets. Et c'est pour ça qu'il est bon de mettre dans notre emploi du temps, eh bien, les réunions de prière. Alors, je doute, mais je suis pas sûr, que dans votre emploi du temps, vous ayez marqué mardi 19h30 prière. C'est mardi, c'est dans 2 jours, donc on sera le 9. Et jeudi, étude biblique, ça sera le 11. Et dimanche, le culte à 10h30. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Peut-être. Mais est-ce que j'ai décidé de marquer cela? Alors, là, ça déjà, ça prend une partie de notre emploi du temps. Le mardi, le jeudi, le dimanche. Et c'est la première semaine. Et la deuxième semaine, est-ce que vous avez marqué mardi, jeudi, dimanche? Et est-ce que tout le mois c'est comme ça? Est-ce que toute l'année vous avez marqué mardi, jeudi, dimanche? Ou alors c'est en option, j'ai d'autres choses à faire, j'ai un emploi du temps chargé et j'ai beaucoup d'autres choses à faire. C'est sûr que si on ne fait pas une chose, on en fait une autre. Mais là le Seigneur nous dit, vous n'êtes pas comme les inconvertis, vous avez d'autres priorités. Vous avez d'autres choses à accomplir en mon nom. Et parmi ces choses-là, eh bien, il y a être rempli du Saint-Esprit, chanter et célébrer le Seigneur de tout notre cœur, rendre grâce pour toutes choses, partager nos actions de grâce, partager ce que nous avons besoin de partager comme fardeau peut-être de sujet de prière. Donc, ça c'est quelque chose qui devrait être dans notre emploi du temps. Mais aussi, il y a annoncé l'évangile en temps, il est dit, tant que nous en avons l'occasion. Vous savez, peut-être que un jour, qui peut être très proche, on n'aura pas cette liberté. Là, on voit que on parle beaucoup de laïcité. Et comme on en parle souvent, on dirait que c'est synonyme d'athéisme. Et puis il y en a qui disent bien non, c'est pas l'athéisme, mais il faut respecter les autres religions. Alors si on respecte les autres religions, on ne dit rien sur la nôtre. Et peut-être que c'est pas encore une loi, mais ça deviendra peut-être une loi. Peut-être que on va nous tolérer mais pour un certain temps, tolérer qu'on annonce l'évangile. Moi, je faisais le marché le mercredi, le jeudi et le samedi. Là, ça fait bientôt 2 ans que je ne peux plus le faire à Port-Vendre. C'est une décision personnelle du maire. Est-ce que je pourrais le faire encore le mercredi à Collioure, le jeudi à Banyuls? Quel est ce qui va faire que je vais être accepté? Je ne fais pas partie de ce monde. Donc, finalement, comme beaucoup de chrétiens, on se sent toléré. Mais pourtant, on peut voir les bienfaits d'annoncer l'évangile. On peut voir quel bonheur de dire « je suis chrétien » et quel bonheur d'inciter, d'encourager les autres à venir à Christ. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Alors, cela, on peut le faire maintenant, mais qui sait si bientôt, on pourra le faire encore. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre emploi du temps, d'annoncer l'évangile. Alors, on peut le faire individuellement, mais par l'Église. Annoncer l'évangile comme, je dirais, comme M. Somerville le fait. Alors, vous l'avez vu, eh bien, il a 94 ans. Le plus important pour lui, c'est d'annoncer l'évangile. Je veux dire, il va peut-être se soucier de beaucoup de choses, mais ce qui l'inquiète, c'est que les âmes n'aient pas entendu l'évangile et qu'il y en a qui passent à côté. Annoncer l'évangile, eh bien, voilà ce qu'il veut. Alors, si lui pense qu'à 94 ans, c'est nécessaire de se déplacer, de continuer à annoncer l'évangile, ben peut-être que on pourrait prendre exemple sur lui, voir que son attitude est bonne, et puis faire comme lui, c'est-à-dire annoncer l'évangile autant qu'on le peut dans l'église, avec des réunions d'évangélisation, ou alors individuellement, en témoignant, en distribuant des traités, en faisant le rôle de témoin de la grâce de Christ. Alors ici, il est dit, versets 15 et 16, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Est-ce que nous consultons le Seigneur pour notre emploi du temps? Quels sont nos critères? Alors, regardez, ici il est dit, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Alors, d'autres traductions, c'est sans intelligence. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et encore au verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alors voilà ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous approcher de lui pour lui demander sa volonté. Alors je vais vous lire quelques mots au sujet d'un pasteur qui n'est plus de ce monde, hein, et qui était plutôt un évangéliste. Il s'agit de Ruben Toré. Peut-être certains le connaissent. Est-ce que quelqu'un le connaît? Voilà, c'est pour savoir justement si vous connaissez ce livre, Comment prier, parce que c'est quelque chose quand même qui, il y a longtemps que je l'ai lu et relu il y a longtemps, et je me suis dit, il va falloir que je relise, parce que je ne suis pas satisfait de ma vie de prière. Alors, j'en ai d'autres de bons livres sur la prière, mais celui-là, C'est un témoignage. Mais ce que je veux vous dire, c'est en fait le témoignage de la vie de Ruben Torré, qui n'a voulu jamais qu'on lui écrive sa biographie. Alors, il ne voulait pas que la gloire de Dieu soit détournée sur lui. Et donc, on se dit des choses, bien sûr, mais pas tout. Hein. Alors là, c'est juste l'introduction à Ruben Torré, à son livre, par quelqu'un d'autre. Et alors, je vais vous le lire. Donc, c'est juste 5 minutes à peu près, ou 10, je sais pas. Alors, reçu docteur en théologie, il fut consacré à l'âge de 22 ans dans une église congrégationaliste, puis parti pour l'Allemagne après 4 ans de ministère afin d'y compléter et approfondir ses études. Alors là, il a été tenté par les idées libérales qui ne croient pas à l'autorité de la parole de Dieu, puis il a vu que ça ne marchait pas. En fait, que c'est justement quand on suit la parole de Dieu qu'on est béni en communion avec Dieu. Alors, à son retour d'Allemagne, il fonde à Minneapolis une église congrégationaliste, mais semble appelé au ministère d'évangéliste plutôt qu'à celui de pasteur, et organise dans cette ville même, pendant 6 ans, des réunions dans de vastes salles et dans des théâtres. Ce travail lui vaut l'affection du célèbre évangéliste Moody, qui l'appelle en 1889 à diriger son institut biblique de Chicago. 5 ans plus tard, une importante église de Chicago le place à sa tête. Déjà florissante, elle prend entre ses mains un splendide essor. Tout en menant de front ses deux activités, il consacre chaque année 5 mois à de grandes tournées d'évangélisation au cours desquelles des centaines d'âmes entrent dans la vie et dans la joie du Seigneur. En 1898, un petit groupe de chrétiens commence à se réunir à l'Institut biblique le samedi soir de 9h à 10h pour prier. Leur nombre s'accroît progressivement jusqu'à ce que 300 à 400 personnes s'assemblent chaque semaine pour demander à Dieu un grand réveil mondial. Ce fardeau devint si lourd au cœur de Dr Torré et de quelques autres qu'après cette réunion, il continuait en petit comité à prier Dieu jusque tard dans la nuit. Une nuit, le docteur Torré se surprit au sein de ce petit noyau à prier Dieu de l'envoyer prêcher l'évangile autour du monde afin que des milliers d'âmes se donnent à Christ en Chine, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, aux Indes, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Allemagne et en Amérique même. Cette prière pouvait sembler insensée de la part d'un homme placé à la tête d'une importante église et directeur d'un institut biblique. Mais le Seigneur n'allait pas tarder à la justifier. Moins d'une semaine après, l'exaucement survint, aussi extraordinaire que la prière elle-même. À l'issue d'une réunion de prière de son église, Torré fut abordé par 2 étrangers qui, au nom des Églises Unies de Melbourne, l'invitèrent à entreprendre là-bas une campagne de réveil. Depuis plusieurs mois, on les avait envoyés à la recherche d'un homme qui pût mener une telle campagne et ils étaient maintenant persuadés d'avoir trouvé en Torré le serviteur que Dieu avait désigné. Saisi d'un si prompt exaucement, Torré hésita, objecta l'impossibilité où il était de délaisser ses responsabilités à Chicago, mais la réponse fut catégorique. Vous viendrez, nous vous y amènerons par la prière. Effectivement, après quelques mois, le docteur Torré reçut un télégramme par lequel on lui demandait de câbler sa réponse. De cette réponse affirmative allait dépendre le destin éternel de près de 100 000 âmes. En avril 1902, le docteur Torré et son compagnon, le chanteur Charles Alexander, commençaient cette mission à Melbourne, au cours de laquelle, en 4 semaines, 8000 âmes se donnèrent à Jésus-Christ. Pendant 6 mois, ils passèrent de ville en ville jusqu'à ce que l'Australie entière fut évangélisée et l'Église australienne sanctifiée tout à nouveau. Mais la semence d'une mission plus grande encore allait être jetée parmi cette population exultante de la joie du salut. Et alors, en fait, il avait écrit ce livre « Comment prier » et certains ont commencé à le lire. Et donc, une dame de Melbourne ayant lu ce livre fut saisie par la force de l'expression et commença à rassembler ses amis en cercle de prière déterminés à prier ainsi. Le mouvement s'étendit à travers la ville et bientôt il y eut à Melbourne plus de 1700 de ces cercles. Peu après, cette dame rentra en Angleterre et y rapporta l'histoire des groupes de prière. L'idée fut adoptée avec enthousiasme et bientôt l'Angleterre et l'Irlande en furent aussi parsemées. En 1904, il y avait à travers le monde 3000 chrétiens dont la prière quotidienne était « Réveille ton œuvre, ô Dieu ». Et c'est certainement là le principal secret du merveilleux réveil qui éclata au pays de Galles et des grands mouvements de l'esprit à cette époque. Alors, c'était à travers le monde. De proche en proche, des invitations parvinrent au docteur Toré, et c'est ainsi qu'il parcourut effectivement la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Inde, puis l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, pour finalement atteindre l'Amérique, soit à peu près exactement le plan qu'il s'était tracé dans cette prière des premières heures d'un certain dimanche matin. Alors, on peut dire, Toré n'avait aucune raison de quitter son église, qui était grande, auquel il avait participé à son accroissement, de quitter l'Institut biblique Moody. Vous connaissez peut-être l'Institut Moody, hein. Maintenant, c'est une grande université. Donc, Moody était un évangéliste aussi, qui avait fait appel à Toré. Et lui-même a prié, et peut-être il s'est surpris en disant « Seigneur, utilise-moi de telle façon ». Et puis, il avait laissé de côté, il l'avait oublié, mais eh bien, le Seigneur a entendu sa prière, et exactement comme il était disponible à annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde, et exactement, eh bien, le Seigneur l'a utilisé pour annoncer l'Évangile. Et vous avez noté peut-être que des chrétiens de Melbourne avaient dit, mais c'est lui qui va faire l'affaire pour annoncer l'Évangile. Il a dit, je ne sais pas, nous allons vous faire venir par la prière. Et c'est ce qui s'est passé. Et le résultat, eh bien, c'est des milliers d'âmes qui se sont converties. Et ce désir de s'approcher du Seigneur ensemble, entre chrétiens, dans les églises, dans les cercles, pour pouvoir intercéder pour les âmes. Alors, voilà la prière, voilà ce qu'elle peut faire, et voilà quelqu'un qui a changé ses plans, son emploi du temps. Il cherchait la volonté de Dieu, et il avait à cœur le salut des âmes. Il priait sans cesse et il encourageait à prier. Alors, regardez ce qu'il est dit ici au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelqu'un a dit, demandons d'abord à Dieu quel rôle jouer dans son œuvre sur la terre et nos perceptions changeront durant nos prières. Alors, vous connaissez ce verset de Éphésiens 2 et verset 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà le programme du Seigneur pour chacun de nous. Alors, c'est en lisant aussi la parole de Dieu que nous sommes exhortés à savoir aussi que Dieu veut nous utiliser et quelquefois il nous surprend et il nous dirige autrement de ce que nous l'avons prévu. Et nous le voyons dans un fait intéressant dans la vie missionnaire de Paul que nous pouvons lire à Actes chapitre 16. Et versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc vous voyez, dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Et j'aimerais prendre l'exemple du Seigneur Jésus. Alors, c'est un passage dans Luc et qui est parallèle à celui que nous avons lu en partie pour la Sainte Cène dans Marc. Alors, c'est Luc 22. Et le Seigneur nous donne toujours son exemple à lui. Il est venu sur cette terre pour mourir pour nos péchés. Et il connaissait sa mission, mais c'est pas pour cela qu'elle était facile, parce qu'il était le Fils de Dieu. Elle était difficile, elle était terrible même, mais le Seigneur est allé jusqu'au bout. Alors voyons, c'est juste ces quelques versets dans Luc 22, 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et c'est un peu ce que dit Paul, hein, c'est « Entretenez-vous, soyez remplis du Saint-Esprit. » Pour ne pas tomber en tentation et pour être utilisé par le Seigneur. Cherchez la volonté du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je peux avoir de bonnes idées, de bonnes pensées, mais est-ce que ma volonté est si importante que cela? C'est la volonté du Seigneur qui est importante. Quand on fait la volonté du Seigneur, on ne se trompe pas. Et malgré tout, peut-être malgré l'opposition, eh bien on a la paix du Seigneur. Et on se réjouit d'être approuvé, d'être dans une attitude où on se repose en Christ. Eh bien, c'est quand la volonté du Seigneur se fait. Psaume 113, 25. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Verset 28 du Psaume 73. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, le Seigneur veut que l'on s'approche de lui. Il nous donne le temps de mettre en pratique nos dons. Ayons de bons rapports entre frères et sœurs. Il faut utiliser notre sang comme lui, notre temps, pardon, comme lui veut, saisir les occasions. N'oublions pas que le salut des âmes est urgent, le temps est court. Nous devons manifester la présence du Seigneur pour sa gloire. Ayons une bonne conduite et donnons soif de lui. Soyons remplis de l'Esprit. Alors la question est-ce que Dieu pourra nous utiliser aujourd'hui? Est-ce que Dieu pourra nous utiliser cette année? Quel sera notre emploi du temps? Mais je vais consulter tous vos agendas. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton encouragement, nous avons besoin de ta paix, de ta force. Nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies, à te faire connaître, à annoncer sans crainte l'Évangile, à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, à porter du fruit et à rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance que nous devons accomplir pour ta gloire. Seigneur, bénis chacun ici, que chacun puisse s'offrir un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Seigneur, aide-nous à chacun à le faire sans cesse. Et Seigneur, que chacun puisse se tourner vers toi pour trouver grâce, pour pouvoir accomplir chaque chose. Et Seigneur, si quelqu'un n'est pas encore sauvé ce matin, interviens, Seigneur, tu sais parler au cœur, convainc de péché, de justice, de jugement. Pourquoi tarder, Seigneur? Peut-être c'est cette question que nous nous posons pour certains. Peut-être que certains ne te connaissent pas encore. Interviens, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Sauve des âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.